Dialogue entre Congolais de ce soir revient sur la signature dimanche à Addis Abeba de l'accord cadre destiné à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. 11 pays africains ont procédé à cette signature. Devant les facilitateurs des Nations Unies et de l'Union africaine, les pays signataires de ce document se sont engagés pour un retour de la paix dans l'Est de la RDC et dans toute la région. Quelle analyse faire de la signature de cet accord cadre et quel pourrait être son impact sur la pacification de l'Est de la RDC? Nous en parlons ce soir avec des analystes politiques. Nous recevons d'abord professeur Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo. Il est éducateur civique. Monsieur l'Abbé Mugaruka, bonsoir. Samuel Monga, analyste en questions internationales. Il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Monsieur Monga, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Rouge.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est le professeur Banyaku Luapé, professeur à l'Université de Kinshasa et coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Siergel. Monsieur, qu'il est en ligne. Professeur Banyaku, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Goël Grasse, qui nous écrit du Kassai occidental, dit « Je me demande quelle est la différence qui existerait entre cet accord et tous les précédents, car apparemment il traite seulement les symptômes au lieu de la vraie maladie. » Mirougui de Kisangani en province orientale, « L'accord est déséquilibré car il y a plus d'exigences sur la RDC que sur le Rwanda et l'Ouganda à propos du dialogue interne. » Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Signature dimanche dernier à Addis Abeba de l'accord cadre destiné à ramener la paix dans l'Est de la RDC. 11 pays africains ont procédé à cette signature. Devant les facilitateurs des Nations Unies et de l'Union africaine, les pays signataires de ce document se sont engagés pour un retour de la paix dans l'Est de la RDC et dans toute la région. Cet accord prévoit aussi la mise en place d'un mécanisme de suivi régional impliquant les dirigeants des pays de la région, jouissant des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, de la présidence de la Commission de l'Union africaine, du président de la CIRGEL et du président de la SADC, en qualité de garant du présent accord, qui se réunira régulièrement pour passer en revue les progrès dans l'application des engagements régionaux pris par les 11 pays signataires dans le respect de la souveraineté des États concernés. Kelly Nkouté.
Cet accord cadre recommande au gouvernement de la RDC un engagement renouvelé, entre autres à continuer à approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, à consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, à effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation et à promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Pour ce qui est des pays de la région ou pays signataires, l'accord cadre recommande un engagement renouvelé, notamment à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, à ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, à renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Les 11 pays signataires de l'accord ont aussi pris l'engagement de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit, aux personnes accusées des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou des crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime des sanctions des Nations Unies. Une revue stratégique de la MONUSCO devra aussi être faite afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État.
Merci Kevin Couté. Notez que l'accord cadre prévoit aussi la nomination d'un envoyé spécial des Nations Unies pour soutenir les efforts pour trouver des solutions durables avec un plan à plusieurs volets qui permettra la convergence de toutes les initiatives en cours. Des réactions se poursuivent concernant la signature de cet accord à Addis Abeba. Commençons par celle du professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. La signature de cet accord est une bonne chose, cependant il faut que l'engagement pris par différentes parties en signant ce document se concrétise dans les décisions qui vont suivre incessamment. Parmi ces décisions figure la mise sur pied effective de la brigade d'intervention par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On écoute le professeur Moïla Chiembe au téléphone d'Innocent Olinga.
Il faut attendre les jours qui viennent. Si le Conseil de sécurité prend ses causes de la demande du gouvernement congolais et met sur pied cette brigade d'intervention, alors à ce moment-là, on aura la preuve matérielle de l'engagement des Nations Unies et de l'ensemble des pays de la région. Alors, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un début de commencement d'exécution de la volonté de soumettre les forces hostiles à l'Est, à la réalité et au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans cette partie de quiproquo, il y a une partie qui revient au gouvernement congolais. La sécurité, la souveraineté du Congo, c'est une affaire d'abord des Congolais. Le Congo n'est pas sous mandat des Nations Unies. On reproche à tort, à raison, à la MONUSCO, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, mais je ne connais pas un seul Congolais qui soit d'accord que le Congo soit mis sous le mandat des Nations Unies. Donc, il ne faut pas demander une chose de son contraire. Les questions de paix et de sécurité sont d'abord des questions de souveraineté du Congo.
Autre réaction, c'est celle du ministre des Affaires étrangères allemand. Dans un communiqué publié hier par son porte-parole, ce dernier dit saluer la signature de cet accord, tout en soulignant que l'essentiel est maintenant qu'il soit mis en œuvre à la lettre. Tous les pays signataires, notamment la RDC elle-même et ses voisins immédiats à l'Est, en particulier le Rwanda, sont tenus de contribuer à continuer de désamorcer la situation en s'acquittant résolument des devoirs qui leur sont assignés par l'accord de paix, indique ce communiqué. À cet égard, poursuit la déclaration, la réforme du secteur de sécurité en RDC, qui constitue une nécessité urgente et tout aussi importante que la cessation de tout soutien externe aux groupes armés illégaux dans l'est du Congo. Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, vous êtes professeur à l'Université catholique au Congo, également éducateur civique. Comment vous avez accueilli la signature de cet accord?
Très mal.
Pourquoi?
Parce que ce qui est en jeu, c'est non seulement la souveraineté de la République démocratique du Congo, souveraineté garantie par la charte de l'ONU et par le droit international, et qui est manifestement mise à mal parce que c'est un processus de mise sous tutelle de la République démocratique du Congo et de la violation de sa souveraineté. Deuxièmement, parce que ce qui est en jeu, c'est l'intégrité du territoire, et l'on connaît ceux qui menacent cette intégrité du territoire. On connaît les agresseurs qui ont été notamment et clairement identifiés par l'ONU, l'Ouganda, à savoir l'Ouganda et le Rwanda, et au lieu de les sanctionner, au lieu de prendre des mesures pour qu'ils puissent rendre compte de leur forfait, eh bien qu'est-ce qu'on les fait? On les associe. L'ONU les associe à ceux qui doivent contrôler le Congo dans l'application justement de la violation de son territoire, de l'intégrité de son territoire. Et ça, c'est d'une gravité vraiment inacceptable. Et enfin, ce qui est en question, ce qui est en jeu, c'est la survie même de la République démocratique du Congo. Non seulement comme un État unitaire, mais aussi et surtout comme un État indépendant.
Et donc, Monsieur l'abbé, cet accord, d'après vous, consacre la balkanisation, comme on le dit souvent?
Non, ça consacre d'abord la mise sous tutelle de la République démocratique du Congo. On parle de 11 plus 4. C'est-à-dire que le Congo est mis sous la tutelle des autres pays. Et ce qu'on demande au Congo, on ne le demande pas aux autres. Parce que les autres sont au moins tout aussi concernés, et parfois plus concernés que le Congo, en ce qui concerne les causes de l'absence de paix, les causes de l'insécurité et l'absence de la coopération au sein de la région des Grands Lacs. Donc, ce qui est en jeu, c'est d'abord la souveraineté du Congo, c'est ensuite son intégrité, parce que justement, ce sont ceux-là même qui menacent cette intégrité et qui travaillent pour sa balkanisation, qui font partie du groupe de ceux qui doivent contrôler le Congo. Et enfin, c'est la survie du Congo en tant que tel.
Mais Monsieur l'abbé, cela n'est-il pas la résultante du fait que le Congo n'aurait pas su définir sa position clairement dans cette situation?
Tout à fait exact. Nous portons une lourde responsabilité dans cette tentative d'euthanasier notre pays. Nous sommes nous-mêmes les complices de ceux qui veulent nous euthanasier. Et ça, c'était très grave. En fait, les accords et les traités internationaux ne tiennent que s'ils correspondent au véritable rapport des forces sur le terrain. Ce que les Congolais auraient dû faire, et cela a été clairement indiqué parmi les objectifs de la transition qui ont été fixés en 2003, ce que les Congolais auraient dû faire, c'était d'abord de modifier les rapports des forces sur le terrain avec leurs voisins, en mettant sur pied d'abord, et comme on l'a demandé et comme il était prévu, une armée républicaine dissuasive, et en créant des conditions de la cohésion sociale, notamment par la gouvernance. Aujourd'hui, je vais prendre un petit exemple pour ce qui concerne la gouvernance. C'est depuis 1984 qu'il n'y a plus de recensement de la population et d'identification des nationaux. Ça signifie en clair que tout Rwandais ou tout Ougandais qui vient au Congo, il peut devenir le lendemain Congolais. Ça, ce n'est pas les autres qui doivent le faire, c'est nous qui devions le faire. Ne parlons pas de l'armée et de toute la gestion du pays. Mais en fait, de toutes les façons, ce qui est clair, cet accord est un accord unique. Et c'est un accord, d'ailleurs, qui comporte beaucoup de contradictions. On dit qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo. Et en même temps, on dit, on donne à 11 plus 4 pays le droit de s'ingérer justement dans ces affaires-là. C'est contradictoire. On nous dit qu'on veut que l'intégrité du territoire, on sait ceux qui, justement, encouragent et soutiennent les groupes armés qui mettent à mal l'intégrité du territoire. On ne leur demande rien. Il n'y a qu'à nous qu'on demande la réconciliation et la démocratisation, alors que ceux qui nous agressent sont tout sauf des démocrates, ils sont tout sauf la réconciliation, et qu'on sait que c'est leurs armées, leurs rebelles qui nous insécurisent, notamment le LRA, les Nalu de l'Ouganda et les FDLR du Rwanda. C'est à eux qu'il fallait demander de se réconcilier, comme ça ils prendraient. Ils nous débarrasseraient au moins de leurs rebelles qui écument notre territoire et qui sèment l'insécurité. Donc il y a tellement de contradictions là-dedans. Et il y a tellement de contradictions là-dedans. Et enfin, je voudrais rappeler que l'article 2 de la Charte des Nations Unies dit que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. On ne peut pas demander au Congo d'aller s'inféoder à 11 plus 4, alors que dans la charte même, la légalité souveraine de chacun des membres est garantie.
Monsieur l'abbé, très brièvement, puisque vous dites que cet accord est unique, donc en d'autres termes, il ne comporterait aucun avantage pour la RDC.
Oui, maintenant, le problème, on dit que ça va suivre. Mais attention, l'accord est très mauvais. Il est très, très difficile qu'on puisse attendre des conclusions positives, des prémices qui sont fausses et iniques. C'est-à-dire, on a créé les germes même de l'échec de cet accord qui ne respecte ni les principes du droit international, ni la charte de l'ONU, ni, et encore moins, tout simplement, les droits de la République démocratique du Congo à se prendre elle-même en charge et à régler ses problèmes, c'est-à-dire les réformes qu'on appelle institutionnelles qui font partie du fameux article 5 de cet accord.
Professeur Banyaku Luapé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Vous venez de suivre M. l'abbé Mugaruka qui parle d'un accord unique qui contient beaucoup de contradictions. Un accord qui hypothèque la souveraineté du Congo ainsi que son intégrité. Quelle est votre analyse?
Je voudrais tout simplement, puisqu'il s'agit de l'analyse d'abord, ne pas m'apesantir sur la position qu'exprime l'abbé Richard Mugaruka. Je voudrais dire que par cet accord, c'est un avantage. Un avantage d'abord diplomatique, un avantage sur le plan sécuritaire, un avantage sur le plan purement politique, puisqu'on parle de recentration de la démocratisation en RDC, et enfin, c'est un accord à grand avantage géopolitique. Je commencerai par l'aspect diplomatique, où vous rendez compte que peut-être là, M. l'abbé ne l'a pas tellement explicité. Nous avons, le 15 décembre 2006, le Congo a signé le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Et ce pacte a été ratifié pratiquement par tous les États membres. Et dans ce pacte, il a été relevé au chapitre 7, 5 pardon, 2 plutôt à l'article 5, le protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs. Et je voudrais ici là dire que ce pacte n'a pas été révalorisé, révalidé auprès des instances internationales, bien que ça a été notre ratification, nous avons déposé aux Nations Unies, à l'Union africaine. Et que cela veut dire que ce protocole qui a été dans un premier temps un peu négligé, ça commence à prendre valeur, puisque dans l'article 5 et au quatrième paragraphe, il est dit que si un État membre ne se conforme pas aux dispositions du présent protocole, un sommet extraordinaire sera convoqué en vue d'examiner les mesures appropriées à prendre. Et le sommet, ça a été à Addis Abeba, vous vous souvenez, et l'accord cadre, c'était l'accord cadre des 11 pays membres de la région, mais auquel on a ajouté les autres pays de la sous-région, notamment des SADC dont on fait membre. Et les Nations Unies ont appuyé pour qu'on ait ce cadre de renforcement pour éviter tout ce qu'on dit balkanisation et tout, ainsi de suite.
Alors professeur, abordons les avantages sur le plan sécuritaire et politique et géopolitique.
Oui, l'avantage sécuritaire, c'est d'abord le fait que la communauté internationale, pour la première fois par rapport aux accords précédents, l'accord de Lusaka, on demandait les cesser le feu ainsi que les renforcements de mandat de Nations Unies au Congo. Cette fois-ci, tous les États ont reconnu que la communauté internationale, particulièrement avec l'Union africaine, on doit organiser une force d'imposition de la paix. Je crois que les termes ont son sens, contrairement à ce qu'on dit force neutre et tout ça là, une force internationale neutre. Ici, il s'agit d'une force d'imposition de la paix, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens pour que l'armée congolaise, puisque ce n'est pas une armée qui exclut de tout le processus, l'armée congolaise, les autres forces qui nous accompagnent, y compris la MONUSCO, à qui il faut donner maintenant un nouveau mandat renforcé, des recours à la force pour le maintien de la paix dans cette zone. Et tous ces États de la communauté reconnaissent que la sécurité de la RDC, c'est une sécurité qui concerne et la région et le monde, puisqu'il y a des éléments terroristes qui s'y infiltrent.
Avantage politique, professeur.
L'avantage politique, c'est comme on disait, la recentration à la démocratisation, au processus de la démocratisation. On ne dit pas pour autant que le processus de démocratisation du Congo est nul, mais on dit tout simplement il faut des avancées qui concernaient non seulement la représentation politique, puisque tout ce qui a comme élément de contestation électorale et ou bien d'élément de contestation de la légitimité du pouvoir, on dit que ces éléments sont concernés pas non seulement par les politiciens, mais aussi par les forces sociales. Donc la réconciliation nationale, c'est une représentation politique plus la représentation sociale.
Alors professeur, puisque vous n'y voyez, vous ne semblez y voir que des aspects positifs, comment vous répondez aux craintes de M. l'abbé Mugaruka?
Je réponds aux craintes de M. l'abbé Mugaruka. Nous sommes de la même école, de la même conception fondamentale, où l'élément d'analyse de la balkanisation est dépassé. Je l'ai dit et je le souligne, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays de la région, ce n'est pas les Kivus qui veulent l'avoir. Et puis ça c'est de un, et puis de deux. Le thème balkanisation, ça prévalut au 18e et 19e siècle, lorsque les nationalités voulaient s'opposer aux empires. Ils avaient déjà nationalité, nous ne sommes pas dans ce cas. Les Kivus, je vous l'ai dit et je vous le confirme, les Kivus ne sera pas balkanisé par une force extérieure, puisque la volonté de la population, telle que je la vois, est pour un Congo uni.
Samuel Monga, vous êtes analyste en questions internationales. Vous vous intéressez également aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Quel sens faudrait-il, d'après vous, donner à cet accord?
Écoutez, je ne souhaite pas polariser ce débat, mais c'est vrai que je ne partage pas le point de vue de l'abbé Mugaruka. Mais j'ose croire qu'en tant qu'abbé, il me pardonnera volontiers. J'aimerais relever deux ou trois éléments. D'abord, les signataires, les parties signataires, leur qualité. La RDC, les pays voisins, la République sud-africaine, dont le rôle sur le plan continental n'est plus à démontrer. C'était important qu'un pays comme celui-là, impliqué dans de nombreux processus de paix en Afrique, puisse aussi prendre part à cette dynamique. Et puis bien sûr, les organisations régionales. Je pense bien entendu à l'organisation, le foyer même, qui est la CIRGL, et on en parlera peut-être en détail un peu plus tard, la SADC, l'Union africaine, qui a souvent été critiquée pour son attentisme face à de nombreux conflits en Afrique, mais je signale ici que à la tête de l'Union africaine aujourd'hui se trouve une certaine Kosasana Dlamini Zuma, qui fut ministre des Affaires étrangères de Thabo Mbeki, et qui, de ce fait, s'est frotté à pas mal de questions liées à la RDC, et c'était important qu'une personne comme celle-là puisse, de son point de vue, en tant que président de la commission, être impliquée dans le processus. Et puis, il y a évidemment l'Organisation des Nations Unies, qui est la couverture suprême du multilatéralisme. C'est l'expression de la meilleure mobilisation internationale que nous puissions avoir par rapport à la situation à l'Est. Alors, si on tient compte de toutes ces parties qui ont signé, soit en tant que partie ou en tant que témoin, on se rend bien compte que l'approche est une approche globale, une approche intégrée, qui me paraît plus en phase avec la problématique de l'Est. Par le passé, on a commis certaines erreurs dans l'approche parce qu'on l'a segmenté. Certains ont cru que le problème n'était que national, d'autres l'ont vu que sur le plan régional, d'autres l'ont vu qu'à partir des Nations Unies. Mais aujourd'hui, c'est un processus global et intégré qui tient compte de toutes les parties prenantes et à tous les niveaux. Et c'est donc aussi implicitement une reconnaissance d'un échec ou demi-échec à chaque niveau, peut-être d'organisation internationale ou régionale prise individuellement. Donc, la raison pour laquelle il fallait converger, donc avoir une démarche beaucoup plus intégratrice, et il me semble que de ce point de vue-là, nous avons aujourd'hui une raison de nous montrer plus optimistes quant à la situation à l'est de notre pays.
Alors, Samuel Monga, vous avez suivi les craintes de M. l'abbé Mugaruka. Peut-on parler des faiblesses ou relever quelques faiblesses dans cet accord?
Bon, vous savez, d'abord, un accord est le résultat d'un consensus. C'est la première des choses qu'il faut savoir. Deuxièmement, cet accord, du point de vue de sa substance, va, me semble-t-il, à la rencontre de certaines contradictions majeures de la sous-région. Vous savez qu'il y a des États, on sait, tels que le Rwanda, qui craignent pour leur sécurité intérieure, qui craignent d'être menacés par certaines forces négatives qui se trouveraient en dehors de leur pays. Et évidemment, le pays désigné ici, on le sait, c'est la RDC. Et puis, il y a d'autres pays qui insistent sur la souveraineté et l'intégrité territoriale. C'est le cas de notre pays. Il y a aussi une autre convergence qui m'a paru intéressante. C'est ce mélange entre les priorités politiques et les questions économiques. On parle d'intégration économique. Dans l'accord, on fait référence à la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui, c'est vrai, à l'époque, on le sait, a été plus instrumentalisée sur le plan sécuritaire, mais je crois que c'est très important. Alors, il y a des craintes du point de vue de la souveraineté de notre pays. Je ne partage pas totalement ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on analyse les obligations qui incombent à la RDC, en fonction de cet accord, à les lire, on parle de réforme du secteur de sécurité, consolider l'autorité de l'État, promouvoir le développement économique, promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation, etc. À bien y regarder, il s'agit d'obligations qui procèdent des prérogatives régaliennes d'un État normalement fonctionnel. Donc,
D'ailleurs contenues dans la Constitution.
Absolument.
Pour la plupart.
Je ne vois pas en quoi notre souveraineté a été entamée. Et d'aucuns pourraient dire, mais pourquoi ne pas avoir demandé cela au Rwanda? Vous savez, lorsqu'on négocie, c'est un consensus, mais nous avons aussi des priorités en tant que parti qui négocie. La priorité de la RDC aujourd'hui, à bien y regarder, est-ce la démocratisation du Rwanda ou la souveraineté et l'intégrité de notre territoire?
Alors, Samuel Monga, cet accord de 11 points, la RDC y est citée 13 fois et les autres pays 2 ou 3 fois seulement. Cet accord ne semble-t-il pas n'exploiter que les faiblesses de la RDC? Très brièvement, je vous en prie.
L'intitulé de l'accord est assez évocateur. Il parle d'aller à la rencontre des maux les plus profonds qui concernent la RDC, en particulier dans l'Est de la République. Si on parle de maux fatalement, ce sont des choses peu reluisantes. Cependant, je pense qu'il y a eu tellement d'initiatives sur le plan bilatéral par le passé, mais aussi sur le plan multilatéral, qui n'ont pas engendré ce qu'on espérait. Aujourd'hui, il est important de pouvoir emboîter le pas à cette dynamique qui me paraît beaucoup plus en phase avec la réalité de l'Est de notre pays.
Professeur Abbé Richard Mugaruka, n'êtes-vous pas finalement en train de voir tout en noir?
Non, je ne partage pas l'analyse de mes deux co-débatteurs, malheureusement. Tout simplement parce que quand vous lisez l'accord, une fois vous arrêtez au titre, le titre d'un texte, d'ailleurs, on le définit et on le détermine à la fin du travail. Il faut regarder le contenu. Quand vous lisez cet accord et que vous regardez l'article 5, le numéro 5 de cet accord, vous voyez tout ce qu'on demande au Congo. Et au Congo seul, parce que c'est le Congo qui doit prendre cet engagement-là. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. La guerre et l'insécurité, c'est au Congo et au Congo seulement. Et ce sont les autres qui s'ingèrent dans nos affaires. On nous dit de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Le Congo n'a pas assuré une quelconque assistance ou un soutien quelconque aux groupes armés qui insécurisent nos voisins. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Il n'y a que l'intégrité du Congo qui est en question. On pourrait continuer jusqu'à la fin. Vous vous rendez compte qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a pris simplement la position rwandaise, qui disait que tout le mal de la sous-région, c'est le Congo qui en est responsable. Et cet accord tend à dire, voilà, vous les Congolais, c'est vous qui êtes responsables de tout ce qui ne va pas, alors que cette même communauté internationale avait déjà reconnu que nous avons été agressés et qu'il y a au moins deux pays qui ont été nommément cités comme ayant participé au soutien et à la mise sur pied du M23, et donc d'une force négative destinée à insécuriser le Congo. Alors nous ne pouvons pas accepter ça, même si c'est dans notre constitution. Si c'est dans notre constitution, c'est une raison de plus pour qu'on nous laisse, nous, appliquer notre constitution, parce qu'aucun pays, dans ce cadre de l'égalité souveraine, n'a le droit de s'ingérer dans les affaires d'un autre pays. C'est-à-dire que le Congo n'a pas besoin de 11 plus 4 pour qu'on lui dise comment elle doit se gouverner. C'est ce qu'on appelle l'atteinte à la souveraineté. Ils se sont immiscés dans des affaires qui ne les regardent pas. Et nous acceptons ça comme ça. Non, quand même. Ça ne va pas. Donc là, il y a manifestement deux choses qui sont claires. C'est que la violation, l'atteinte à la souveraineté nationale est manifeste. Le Congo a été mis sous tutelle de 11 plus 4 dans une matière qui relève, comme dans tous les pays du monde, de la souveraineté nationale. Alors, deuxièmement, ce qu'on nous demande à nous, ce qui est prévu comme engagement du Congo, on ne l'a pas demandé aux autres et qui sont partie prenante des causes profondes de la sécurité dans cette région-là. N'oubliez pas que on avait déjà signé un accord à Luanda avec l'Ouganda en 2002. On avait signé, c'était exactement le 6 septembre 2002, on avait signé un accord de paix entre la RDC et le Rwanda le 31 juillet 2002. Il y a eu le fameux pacte de paix et de sécurité pour la région des Grands Lacs. Alors, monsieur l'abbé, tout ça n'a pas été suivi des faits. On n'a jamais condamné les agresseurs, on n'a jamais condamné ceux qui mettent à mal la sécurité, la souveraineté du Congo et l'intégrité de son territoire qui sont garantis par le droit international. Excusez-moi de vous le terminer par
cette très rapidement, je vous en prie.
Nous avons suivi la prise de position de Monsieur Afrique des États-Unis. Ce n'est pas rien. Lorsque le sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique, Johnny Carson, déclare que la solution qu'il veut aider l'ONU à mettre en œuvre au Congo, et c'est la même que celle de la Yougoslavie et du Sud-Soudan. Soudan. Et ça s'est terminé comment en Yougoslavie. La Yougoslavie a éclaté en 5 États, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, etc. Et le Soudan a éclaté aussi. Attention, nous les Congolais, nous brillons par la superficialité et très souvent la médiocrité et la faiblesse, même dans les relations internationales. Et sans dans ces relations internationales-là, Il n'y a pas de cadeau. On ne vous fait pas de cadeau. Si vous êtes faible, on vous écrase.
Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Pour le président Paul Kagame du Rwanda, son pays approuve sans réserve cet accord car rien ne peut davantage bénéficier au Rwanda qu'une avancée réelle vers la paix régionale et la stabilité. On écoute le président rwandais Paul Kagame.
Cet accord cadre constitue une étape importante ainsi qu'une opportunité nous permettant de réaffirmer notre engagement à la paix régionale. Je l'accueille de tout cœur. Rien ne sera plus important pour le Rwanda qu'un progrès véritable en vue de parvenir à une paix et une stabilité régionale. La poursuite de la paix nécessite l'engagement de la totalité de la région ainsi que la communauté internationale.
Professeur Banyaku Luape, le fait que le président Paul Kagame du Rwanda ait signé cet accord peut-il rassurer ?
Oui, mais ça doit rassurer, non seulement puisque c'est le Rwanda qui signe, mais ça doit rassurer puisque c'est un membre de notre organisation régionale. Et cette organisation régionale, ça il faut bien le dire, l'accord cadre est tiré comme une mesure appropriée, tirée de notre pacte. C'est une mesure appropriée pour résoudre cette question.
Mais professeur, d'après ceux qui font les décomptes, il semblerait que ce serait le 15e accord de paix que signe la RDC, mais qui a souffert, tous ces accords n'ont souffert que...
Je vais vous dire avec beaucoup de sérieux que les accords signés, c'est différent des accords ratifiés par un pacte, consolidé par une volonté des Nations Unies d'appuyer cet accord. Et ça, c'est de... Et je voudrais un peu répondre. Je pense que en lisant bien l'accord cadre, bon, tout en regrettant que, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, je ne suis pas un spécialiste en sémantique, mais je suis étonné que dans tout le discours, la République démocratique est toujours écrit en minuscule, ce qui dénote un peu de relax dans la signature. Lorsque vous dites République démocratique du Congo, démocratie, ça s'écrit avec grand D. Et dans tous les textes jusqu'au bout, bon, ça c'est un petit détail sémantique, mais c'est pas le problème. Mon problème, c'est que, contrairement à ce que dit M. l'abbé Mugaruka, il y a trois niveaux. Il y a le niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, et je ne dis pas que c'est exagéré pour ce qu'on a demandé, qui sont, comme l'a dit mon ami Samuel Monga, et ça entre dans tout ce qui est élément attribut de souveraineté de la République. Lorsqu'on vous les rappelle, vous ne devez pas être vraiment totalement frustré, puisque si c'est en dessous, on vous redemande tout simplement de faire monter.
Ça,
c'est
on vous le rappelle parce que vous ne l'avez jamais fait.
Bon, non, pas vous ne l'avez jamais fait.
Ou vous ne le faites pas.
Non, il y a un déficit, c'est différent. S'il y a un déficit, tous les États du monde ont un déficit. Citez-moi un seul État qui n'a pas un déficit démocratique et je vous répondrai qu'il n'en existe pas. Ça, c'est de un. Et puis... On n'a pas parlé seulement du gouvernement, on a parlé de la région, ce qui revient à la région. Et je pense qu'il a dit l'engagement pour ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. On parlait plutôt de la région. C'est le deuxième niveau. Donc on ne parlait pas seulement de la RDC, on parlait de... Et puis le troisième point, c'est le point de la communauté internationale. Et ensuite, au-delà de ces trois niveaux, le gouvernement... La région, la communauté internationale, il a été proposé un mécanisme de suivi. C'est pourquoi les Congolais ne doivent pas tellement s'en faire que dans l'accord qu'on n'ait pas cité, la M23, qu'on n'ait pas cité, dans un accord cadre, c'est un accord qui permet de recadrer. Et c'est pas un accord, comme on dit, spécifique. C'est dans les dispositions, lorsqu'on parlera des mécanismes de suivi au niveau de la région, au niveau de notre État, puisqu'il a été prévu, c'est alors qu'on pourra, comment est-ce que l'État va par son mécanisme de suivi, développer ce mécanisme de manière plus efficace.
Professeur Banyaku, qu'est-ce que vous répondez à ces analystes qui pensent que c'est plutôt la mise en œuvre de cet accord qui va poser problème, du moment qu'il y a beaucoup d'intérêts dans la région qui feront que ça ne puisse pas marcher?
Je dirais tout simplement que ce qui est avantageux, c'est que cet accord est relié par un soubassement qui est le renforcement du mandat des Nations Unies. Alors, pour répondre un peu aussi rapidement à M. l'abbé Mugaruka, quand on parle de Yougoslavie, de Soudan, tel que le secrétaire d'État, je dis que ce n'est pas la même chose. Du point de vue analytique, ce n'est pas la même chose. La Yougoslavie, telle que l'État a été recréée, partait d'un autre état d'empire. Il y avait l'empire austro-Hongrie, il y avait l'empire turc, et qui ont fondamentalement brimé ses nationalités. Donc, quand ces nationalités veulent avoir leur autonomie par une certaine balkanisation, c'est-à-dire une réouverture de leur nationalité, ce n'est pas la même chose qu'au Congo. Il n'y a aucun Congolais du Kivu qui a demandé, qui a revendiqué une nationalité différente de la nation congolaise.
Samuel Monga, le président Paul Kagame a signé cet accord. Entre temps, sur terrain, on signale ici en RDC des affrontements entre deux factions du M23. Peut-on déjà parler de débandade dans le camp du M23 ou de simple diversion?
Vous savez, la signature d'un accord comme celui-là s'accompagne de spasmes. Il va de soi que il y a un message clair qui est envoyé aux forces négatives. Et très naturellement, on l'imagine bien que ces forces négatives vont commencer à imploser déjà entre deux blocs. Il va y avoir des pros et des anti-accords. C'est connu, c'est toujours comme ça. Mais les chances de réussite de cet accord, à mon avis, reposent sur deux ou trois petites choses. Est-ce que cet accord a traité directement des causes profondes au conflit? Manifestement, oui. Est-ce qu'il intègre aussi les pays voisins dans la dynamique? La réponse est oui. Est-ce qu'il traite de la problématique des éventuels spoilers, des personnes qui pourraient éventuellement être beaucoup plus récalcitrantes? Pas directement, mais je pense que le plan détaillé dont il est question, notamment qui sera établi entre les signataires et d'autres pays de la communauté internationale tels que la Belgique, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce plan détaillé permettra d'aller un peu plus loin et de pourquoi pas mettre sur pied un calendrier qui nous permette de manière non ambiguë hein, et de manière claire d'avoir une idée sur un monitoring indépendant et efficace.
Alors, quel pourrait être l'impact de cet accord sur la pacification de l'Est de la RDC? Notez qu'au cours d'une conférence de presse dimanche dernier à Addis Abeba, le chef de l'État, Joseph Kabila, a estimé que les pourparlers de Kampala vont se poursuivre. Cependant, il prévient que ces discussions doivent s'achever très rapidement. On écoute le président Joseph Kabila.
Parallèlement à la signature de l'accord ici, est-ce qu'on va continuer à poursuivre les discussions à Kampala? La réponse est oui. Les discussions vont se poursuivre parce que ce que l'on vient de faire ici à Addis Ababa, ce n'est que l'étape diplomatique, ou soit le cadre diplomatique qu'on vient de signer. Alors, les discussions à Kampala vont se poursuivre, mais attention, on n'a pas beaucoup de temps. Même si ces discussions vont se poursuivre à Kampala, il faut qu'on ait un délai. On vient de résoudre un seul point depuis 3 mois. Les deux autres, le point est d'ailleurs le problème le plus simple. On doit en principe le résoudre d'ici avant la fin de ce mois, ou soit se donner un délai d'ici le 15 mars qu'on ait tout terminé en ce qui concerne les discussions à Kampala.
Samuel Monga, il y a Nguru Asingia Anselme de Goma Nord Kivu qui dit « Aujourd'hui, le gouvernement congolais fait un examen à choix multiples. Aller à Kampala négocier avec les rebelles du M23, le dialogue national, la signature de l'accord de paix à Addis Abeba. Le président de la République dit qu'en même temps, Kampala va continuer, mais il faut arrêter d'ici le 15 mars. Quelle est la marge de manœuvre dont bénéficie la RDC ?»
D'abord, en relations internationales et en diplomatie, les choses ne sont pas toujours aussi mathématiques qu'on le croit. Parfois, on a l'impression que c'est un peu irrationnel, mais il y a des dynamiques réelles qui existent sur le plan des relations internationales qu'il ne faut pas sous-estimer. Le M23, à mon avis, porte en lui-même les germes de sa faiblesse et de son échec du fait que c'est d'abord un mouvement fortement hétéroclite. Et il va de soi que, constitué de la sorte, il n'avait pas un long avenir. Très naturellement, dès qu'il y a un accord cadre d'une telle importance, des groupes de forces négatives, tels le M23, se trouvent dans une position délicate. Pourquoi ? On sait que des groupes rebelles ont besoin, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir gagner en ampleur, ils ont besoin non seulement de la crédibilité, mais aussi d'une base arrière. On le sait, je ne suis pas militaire, mais c'est un principe connu. Aujourd'hui, les pays signataires, dont certains ont été suspectés d'être derrière le M23, ont compris que la démarche est différente. L'accord est articulé autour d'organisations internationales et autour d'organisations régionales. Ce qui veut dire qu'un État qui choisit volontairement de se mettre en marge de la dynamique risque, sur le plan diplomatique, de s'isoler. D'où, très naturellement, le président Paul Kagame a dit le Rwanda adhère à cet accord sans réserve aucune.
Et donc, pour vous, cet accord va avoir un impact réel, un impact certain sur la pacification de l'Est de la RDC?
L'impact réel et certain dépendra de sa mise en œuvre. Un accord n'est pas simplement une question de partie signataire, ni de sa substance, c'est aussi la problématique de sa mise en œuvre. Je me réjouis du fait que cette mise en œuvre est consensuelle, et puis elle est à double strate. D'abord, sur le plan national, il y a un mécanisme de suivi national qui va être mis en œuvre, et puis sur le plan régional, il y a un mécanisme de suivi 11+4, qui n'est pas une espèce de tutelle sur le pays, mais plutôt une volonté convergente de gérer de manière consensuelle un problème récurrent qui risquerait même de déstabiliser toute la sous-région.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Cet accord va-t-il finalement avoir un impact sur la pacification de l'Est et de la RDC? Samuel Monga dit parmi les éléments qu'il avance que cela dépend de sa mise en œuvre. Quel est votre point de vue en guise de conclusion?
Effectivement, mais ce ne sont pas les principes et les vœux pieux qui manquent. Les principes de la souveraineté, du respect de la souveraineté des pays, le principe de l'intégrité, du respect de l'intégrité du territoire, le principe même de la concertation internationale pour la paix, parce que vous savez que la guerre est devenue, depuis la charte de l'ONU, est devenue illégale. Eh bien, tout ça existe. Mais pour que ça fonctionne, il faut que certaines autres conditions soient remplies et ces conditions ne sont pas remplies pour le moment.
Et donc, il faut continuer à douter de la bonne foi des pays comme le Rwanda.
Et c'est pour cela. Il faut parce que le Rwanda n'a rien fait, n'a même pas reconnu sa responsabilité, l'Ouganda non plus. Ils ont fait montre de mauvaise foi et les relations internationales ne sont pas une question d'accord ou quoi. C'est une question de rapport de force. Et tant qu'on n'aura pas rétabli ces rapports de force, tant que nous n'aurons donc pas les moyens d'assumer notre souveraineté, eh bien, même cet accord ne pourra pas être mis en ordre.
Professeur Banyakou, en guise de conclusion,
oui, je confirme que l'accord cadre est tiré de notre pacte de la région et renforcé par l'appui qu'apporte l'Union africaine et les Nations unies. Et que par conséquent, il y a tout pour espérer. Et non seulement pour espérer du point de vue politique, et comme on dit sécuritaire, mais surtout du point de vue géostratégique. C'est-à-dire, il est reconnu que le Congo, c'est un axe déterminant pour la stabilisation de la région et du monde, c'est-à-dire de tous les autres pays. Donc, on ne peut pas prendre cet accord comme un accord qui devrait sectoriellement sécuriser l'accord. C'est un accord de la paix, de la sécurité et de la coopération dans la région. Donc, ça rejoint bien notre pacte que je vais bien vouloir distribuer à tous les membres et débatteurs de cette émission.
Merci, professeur Samuel Monga. Le dialogue national, ça fait partie de cet accord, mais visiblement, ça semble traîner le pas.
Non, mais vous savez, c'est très important qu'il y ait cette homogénéité, cette convergence de dynamique. Je pense par exemple au niveau de la mise en œuvre de ce mécanisme de suivi national, eh bien les concertations nationales pourraient aussi apporter une juste contribution quant à sa structure, quant à son véritable rôle. Je suis optimiste parce que sur le plan de la structure de cet accord, si l'on tient compte des parties signataires, on ne peut pas faire mieux aujourd'hui. Et je me dis que cette configuration-là laisse présager de très bonnes choses et il faut rester optimiste et croire aux changements possibles en RDC.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Samuel Monga, analyste en questions internationales, qui s'intéresse également aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Merci à l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo, également éducateur civique. Merci au professeur Banyakou Luapé, professeur à l'Université de Kinshasa et coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Siergel. Merci à vous de nous avoir suivis, chers auditeurs et internautes. Bonne suite et programme sur Radio Capitale.